Proche, le magazine des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Ce week-end à Saint-Malo, au nord-ouest de la France, le festival Étonnant Voyageur nous invite à refaire le monde, célébrant les puissances de l'imaginaire, la force du regard et le palan des arpenteurs d'asphalte ou de latérite. Pendant 3 jours, près de 300 auteurs, poètes, cinéastes, photographes, mais surtout écrivains, se rassemblent dans la cité corsaire, face à l'océan, cédant à l'appel du grand large et du grand dehors. Le grand dehors, c'est une expression que l'on doit d'ailleurs à Michel Lebris, fondateur du festival et capitaine de ce curieux navire, peuplé d'enfants, de Conrad, Stevenson ou London. Et qui sait, ces illustres écrivains voyageurs ont peut-être inspiré Cédric Gras, notre invité cette semaine, présent également cette année à Saint-Malo. Car Cédric Gras est bel et bien un étonnant voyageur, amoureux des confins et des sommets, le genre qui trace sa route tout à l'est du monde et qui défait les pays qu'il traverse quand d'autres s'enorgueillissent de les faire. Âme slave, mais plume française, à 36 ans, il vient de publier aux éditions Stock son dernier ouvrage, Saison du voyage, dans lequel il rassemble souvenirs de jeunesse et réflexion sur le sens du voyage au XXIe siècle. Avec lui, on va donc filer les saisons, à commencer par le printemps, à bord, pourquoi pas, du Transsibérien.
En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. Et je n'avais pas assez des 7 gares et des 1003 tours, car mon adolescence était si ardente et si folle que mon cœur, tour à tour, brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des voies anciennes, et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare croustillé d'or, avec les grandes amandes des cathédrales, toutes blanches et l'or mielleux des cloches. Un vieux moine me lisait la légende de Novgorod. J'avais soif, et je déchiffrais des caractères cunéiformes. Puis tout à coup, les pigeons du Saint-Esprit s'envolaient sur la place, et mes mains s'envolaient aussi avec des bruissements d'albatros. Et ceci, c'était les dernières réminiscences du dernier jour, du tout dernier voyage et de la mer.
Cédric Gras, bonjour.
Bonjour.
Alors pour ouvrir cette nouvelle rencontre avec vous, Cédric, on a choisi pour printemps les premiers vers de la prose du Transsibérien de Blaise Cendrars, le poète voyageur français, père de la bourlingue. Alors Blaise Cendrars n'a peut-être pas traversé exactement à 16 ans en train la très grande Russie, comme il l'a pourtant très très bien écrit, mais ses 445 vers expriment, admirablement on peut le dire, toute la fougue, l'urgence, l'appétit de la jeunesse qui s'élance dans le vaste monde, le fameux grand dehors dont je parlais. Ce que vous avez fait, vous, Cédric, à l'aube du XXIe siècle, à 18 printemps exactement.
Oui,
c'est ce que vous écrivez, sont les premières lignes, les premières pages en tout cas de votre ouvrage.
À l'aube du 21e siècle. Moi j'ai eu 18 ans en 2000. Ça m'avait frappé déjà à l'époque d'ailleurs d'avoir 18 ans en 2000, parce que 18 ans c'est le symbole de la maturité, de son passeport.
De la majorité.
De la majorité aussi d'un point de vue légal. Et d'avoir 18 ans en 2000, à l'époque j'avais trouvé ça assez amusant parce que c'était un peu l'année zéro de ma vie d'adulte. Et donc de ma vie de voyage, puisque c'est à ça que j'aspirais beaucoup et j'attendais ce moment. Alors Blaise Cendrars, il n'a pas fait ce voyage en Transsibérien, paraît-il, mais ça reste un texte extraordinaire que je lis et relis. J'en reviens du Transsibérien une fois de plus. Et
là, tout juste.
Oui. Oui, bon, là, c'était dans des conditions un petit peu de confort. Je travaillais pour une agence, mais à chaque fois, je suis étonné par le fait qu'il ait pu imaginer avec autant de réalisme, et je suis conforté à chaque fois dans la puissance de la littérature. Et dans l'écriture de voyage, maintenant, je crois que je retiens de plus en plus le mot écriture.
Et c'est justement ce qu'on comprend dans ce nouvel ouvrage, Saison du voyage, qui, comme je le disais, rassemble vos souvenirs. C'est pas un récit de voyage en particulier sur, comme vous l'aviez fait, l'Antarctique, l'Extrême-Orient russe auparavant. C'est vraiment une collection comme ça de souvenirs et surtout de réflexions sur qu'est-ce que c'est voyager aujourd'hui. Et on a l'impression justement que vous défaites, peut-être pas le voyage, mais en tout cas la figure du voyageur, pour peut-être vous devenir pleinement écrivain cette fois-ci.
Oui, peut-être que c'est un livre de transition, hein, quelque chose qui sera plus littéraire, fictionnel, j'en sais rien, on verra. En revanche, c'est vrai que j'ai eu envie dans ce livre de discuter du voyage, parce que on loue toujours le fait de partir, on est toujours admiratif devant ces rencontres éphémères, il y a quelque chose d'un petit peu naïf et candide dans le voyage, et à chaque fois que vous essayez d'en parler avec quelques bémols, on vous regarde comme si vous étiez un rabat-joie, et j'espère que ce livre n'est pas trop négatif, en tout cas je ne le crois pas d'ailleurs, mais c'est vrai que j'ai été beaucoup confronté à ça, et j'ai eu envie quand même un petit peu par provocation d'ailleurs de forcer le trait dans ce livre à certains moments.
Oui, parce que justement à propos d'ailleurs de vos premiers voyages, vous dites un anthropologue de l'Occident en aurait ri aux éclats au sujet de un peu ces rites de passage du jeune, cet exercice obligé de la jeunesse nomade. Vous dites des séjours altruistes au Mali, les travaux des champs en Australie, la panaméricaine, le pouce levé. Pourquoi en rire ?
Il s'agit pas d'en rire, mais j'ai commencé à voyager donc à 18 ans, en 2000, maintenant j'en ai 36, non pas que je sois vieux, mais j'ai un peu plus de recul par rapport à cet appel du large qui frappe les jeunes, et je crois que c'est une chose extraordinaire que d'être appelé par le large. Mais quand on regarde ça un petit peu de loin, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui relève du rite de passage. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre, Saison du voyage. Il y a plusieurs entrées dans ce titre. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup voyager à différentes saisons, notamment le printemps et à l'automne. Mais dans Saison du voyage, il y a aussi cette idée d'une période de la vie. Et notamment, alors il y a des gens qui voyagent bien sûr à d'autres moments de leur vie, mais c'est vrai que beaucoup de jeunes quand même prennent leur sac à dos à 18 ans, à 20 ans ou après leurs études vers 25 ans pour faire un voyage, alors un grand voyage, tout est relatif, il y a des gens pour lesquels 2 semaines ça va être un très grand voyage, puis d'autres qui vont partir 1 an, 2 ans, mais il y a quelque chose qui relève à mon avis de l'initiation, du rite de passage dans une société qui en propose de moins en moins. Voilà.
L'un de vos premiers voyages, c'était aux États-Unis, notamment à bord d'une vieille Chrysler, un peu le nez au vent comme ça. Il y avait plus ou moins la destination du Mexique. Donc c'était un road trip qui vous fait dire que le voyage est une improvisation désarticulée, sans finalité,
oui,
ni destination.
Ça, je le crois vraiment. Oui, oui.
Sauf qu'on a l'impression que finalement, à vous lire, que le voyage, c'est presque qu'une affaire de jeunesse et d'innocence.
Non, pas que. Mais c'est mon expérience jusque-là. C'est vrai que moi, jeunesse a rimé avec vivre à l'étranger, voyager à l'étranger. Alors, je parle de ça. Et il y a des gens qui connaissent peut-être leur saison du voyage à des âges plus avancés, à d'autres étapes de leur vie. Ça peut être après un déboire professionnel, amoureux ou simple volonté de faire une pause, de réfléchir à son existence. Il y a quand même un fait qui est là, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent. Et ça peut être c'est pas forcément des voyages comme ceux que j'ai pratiqués moi, un sac à dos et dans une improvisation désarticulée. Ça peut être des études à l'étranger, des expatriations professionnelles précoces. D'ailleurs, j'en parle beaucoup de ça. Je pense que la sédentarité à l'étranger est finalement aujourd'hui un voyage presque plus intéressant que celui assez superficiel qui fait de parcourir le monde avec son guide du routard.
Alors vous écrivez « Partout où nous passons, la bringue est finie. Nous sommes toujours arrivés après les réjouissances. Sur les décombres des fêtes, nos pères ont brûlé la chandelle par tous les bouts de la terre. Les bourlingueurs sont devenus graves, la terre est ronde. On s'est trompé d'époque, on a raté nos vies, il nous reste la poésie. »
Oui, voilà, il nous reste la poésie, ça c'est parce que moi, c'est un refuge pour moi, mais bon, c'est un peu provocateur, évidemment, ce que j'écris là, mais il y a un fond qui est vrai. Qu'est-ce que c'est que le voyage ? C'est quelque chose qui date un peu de l'après-guerre. Il y a eu cette route des Indes, il y a eu cette génération, celle de mon père, par exemple, qui prenait sa 4L et puis qui partait à travers les Balkans, c'était la Yougoslavie, mais on les laissait passer. Après, il y avait la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, etc., jusqu'aux Indes, jusqu'au Népal. C'était un voyage assez insouciant, moi, quand je les écoute. Ses pères du voyage. C'est d'ailleurs, je ne sais pas exactement quand est-ce que le Festival Étonnant Voyageur a été fondé, mais je pense qu'il a été fondé un peu dans cette ambiance-là, d'un voyage sur une planète qui n'avait pas encore pris conscience de tous les enjeux qui, aujourd'hui, quand même, interpellent la personne qui voyage et rendent son itinéraire et ses errances un petit peu moins insouciantes.
Il y avait moins de frontières, peut-être. Elles existaient,
avait,
mais elles
c'était
étaient
pas les mêmes,
plus
perméables. Pas au même endroit, la géopolitique a bougé, c'est vrai. Et puis, je crois qu'il y avait, moins d'inquiétudes géopolitiques, moins d'inquiétude écologique, moins d'inquiétude sur la question notamment migratoire, énormément d'enjeux qui aujourd'hui font l'actualité et dont le voyageur ne peut pas s'affranchir. Soit on n'était pas conscient, soit tous ces gens d'eux étaient moins évidents. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un voyage un peu nouveau qui est apparu aujourd'hui, hein, notamment, on en parlait tout à l'heure, l'humanitaire, un voyage engagé.
Et ça, c'est une bonne chose, d'être un voyageur conscient.
Sans doute une très bonne chose. Alors, moi, je n'ai pas été vraiment aspiré par ces ces enjeux-là parce que j'étais dans une démarche peut-être égoïste d'ailleurs, mais qui était purement celle de l'appel du large, voir le monde. Et puis c'était beaucoup en relation aussi avec un effort physique, non pas que j'avais envie de me surpasser. Et puis d'abord, j'ai pas de qualité qui soit supérieure à celle d'autres sportifs, mais j'avais besoin de ça, j'avais besoin de...
De vous mesurer aux immensités.
Un petit peu, oui, bien sûr. Oui, voilà. Donc j'étais pas moi dans cette démarche-là, mais... En allant, par exemple, faire de l'alpinisme dans les Andes ou ailleurs, on prend un avion, donc on traverse des villes avec des bidonvilles, on voit une société, avant d'arriver au pied de la montagne, on traverse des pays et on n'est pas aveugle, on regarde et donc on prend conscience de plein d'autres choses auxquelles on n'avait pas pensé avant lorsqu'on ne songeait qu'à son ascension.
Alors reste la poésie, celle du transsibérien et de l'ailleurs. Et pour vous, Cédric Gras, l'ailleurs, c'est l'Est surtout? Le monde russe?
Oui, ça a été l'Est.
Et d'où ça vous vient cet attrait, ce désir de Russie?
On me pose toujours cette question, j'ai aucune racine familiale.
On a envie de savoir.
Oui, bien sûr.
Parce que vous êtes russophone?
Alors je suis russophone maintenant, mais je ne l'étais pas à l'époque, j'avais aucune racine dans mon arbre généalogique. Ça s'est fait, alors sans doute, parce que c'est vrai que la géographie de ce que j'appelle l'Eurasie est faite pour m'attirer, elle est très continentale, ce sont des montagnes, des déserts, des steppes, c'est assez aride, c'est assez austère et c'est tout ce qui me plaît. Et puis, il y a eu ce coup de foudre pour la langue russe, alors que j'avais déjà un peu appris l'espagnol, appris 3 mots de tibétain, de chinois. Enfin, je me cherchais un petit peu, je me commençais à vouloir un petit peu
vous
vivre
engager.
Une initiation culturelle qui ne soit pas la mienne. Et là, le russe, c'était une révélation. Mais c'est difficile, évidemment, de s'en expliquer.
Alors avant cette rencontre fondatrice dont on va reparler, il y aura quand même votre voyage vers le Tibet, une autre terre d'infini à 19 ans. Alexandra, David Néal, illustre aînée et grande voyageuse du siècle passé, en a elle aussi longuement rêvé. Deuxième saison du voyage, l'été, extrait de Voyage d'une Parisienne à Lhasa.
Nous étions partis dans l'après-midi et ne pouvions espérer aller loin ce jour-là. Notre camp, c'est-à-dire ma tante lilliputienne, fut établi sur un petit plateau d'où l'on apercevait le pic principal du Kakarpo. Le majestueux Kakarpo, dressant haut dans le ciel clair la masse de ses glaciers bleuis par la pleine lune, m'a paru ce soir-là, non comme le farouche gardien d'une barrière infranchissable, mais plutôt telle qu'une déité vénérable et bienveillante, debout au seuil des solitudes mystiques, prête à accueillir et à protéger la voyageuse, quelque peu téméraire, que son amour du Tibet y ramenait. Je passai la nuit suivante au pied d'une muraille de roc rouge, à l'entrée d'une gorge sauvage d'où s'échappait en rugissant un large torrent qui se déversait dans le Mékong. Une très petite distance nous séparait de Londrée, l'endroit où la tactique à laquelle je m'étais définitivement arrêtée pour me débarrasser de mes porteurs allait subir l'épreuve décisive. Le premier coup de dé de la partie que j'avais engagée serait joué dans quelques heures. À qui donnerait-il la victoire? Debout, en face l'un de l'autre, parmi la brousse, seuls, Yongden et moi, nous nous regardions en silence. La nouveauté de notre situation nous désorientait. À vrai dire, nous demeurions quelque peu ahuris. Pendant plus de 2 ans, en fait depuis mes premières démêlées avec les autorités tibétaines au pays de Kham, le jeune lama et moi avions inlassablement discuté les moyens de disparaître, de nous débarrasser de notre entourage et de faire perdre nos traces pour changer de personnalité. Durant le long voyage de l'extrême sud du désert d'herbe au premier campement mongol, dans le Gobi, comme sur les routes qui nous ramenaient à la frontière tibéto-yunanaise, ce thème unique avait perpétuellement alimenté nos conversations, hanté nos pensées et troublé nos rêves. Maintenant, ce que nous tenions à juste titre pour si difficile à réaliser était à notre portée. Dans quelques heures, nous partirions pour le col de Dokar qui marque actuellement la frontière du Tibet interdit.
« Partie en 1911, l'insatiable exploratrice française Alexandra Davinel va finalement rejoindre en 1924 la capitale interdite du Tibet, Lhasa. Elle y séjournera d'ailleurs incognito, plus ou moins déguisée en vagabonde, ce qui contribuera aussi à faire d'elle et de son très long périple un mythe, on peut le dire, un mythe du voyage. Cédric Gras, les mythes comme celui-là, est-ce que ça vous embarrasse ou ça vous inspire ?
J'ai une relation un peu ambiguë maintenant, assez classique de la littérature de voyage, parce que ce sont de très beaux textes.
Que vous avez lu ? Est-ce que vous aviez lu d'ailleurs vous avant de vous lancer au Tibet ?
Rêver les yeux ouverts, bien sûr. Le Tibet, c'était dans mon adolescence un pays
c'était
magique.
Alexandra.
C'était une terre que je voulais absolument visiter un jour. Je faisais de la montagne et le Tibet, évidemment, c'est le Graal de toute personne qui aime les régions montagneuses. Alors, j'ai lu David Neil plusieurs fois, mais c'était en 1924. Et aujourd'hui, nous sommes en 2018. Lhasa ne ressemble absolument pas à la Lhasa que Alexandra David Neil a découvert. La première femme, d'ailleurs, à Lhasa, Lhasa qu'elle a découvert, c'était quelque chose qui appartient au passé, mais qui continue à faire rêver. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que tant qu'on n'y va pas, on a du mal à confronter cette légende avec ce mythe, avec la réalité qu'on se refuse à voir parfois. Il y a une forme d'aveuglement dans le voyage aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit avec la photo. Est-ce que le zoom est quelque chose qui permet d'isoler comme ça tout ce qui nous apparaît comme charmant du moderne, de tout ce qu'on voudrait dégager finalement du cadre
C'est-à-dire
de la photographie.
C'est-à-dire, par exemple, on ne veut pas voir la modernité, on ne veut pas voir...
Il y a une forme d'aveuglement. On voudrait que ce ne soit pas là. Moi, je suis toujours frappé quand on voit les livres de photos, les expositions, qu'on se concentre là-dessus. Et on appelle ça l'authentique. Comme si l'authentique, c'était pas au contraire les immeubles tout neufs qui poussent à côté, la colonisation chinoise, ces Tibétains qui abandonnent le nomadisme pour devenir homme d'affaires ou je ne sais quoi.
Parce que c'est ça, en plus à l'époque, Alexandra découvrait un Tibet sous une autre administration. C'était pas du tout les mêmes réalités qu'aujourd'hui.
Bien sûr, à l'époque c'était le Dalai Lama qui était encore souverain, jusque dans les années 50. Donc tout ça a beaucoup changé et ça a une valeur de témoignage historique aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut s'en méfier quand on le lit, parce que ça peut être une source de déception importante.
Et alors vous, quand vous êtes parti, alors sans grande préparation, on peut le dire, puisque vous étiez donc à deux, avec une comparse
oui.
de fortune et d'infortune, à
oui.
cheval au départ, puis après à vélo, ensuite à pied. Là, on sent, et on le lit dans votre ouvrage, Saison du voyage, que vous expérimentez pour la première fois cette vie des steppes, sous la yourte, puisque vous êtes parti, vous vouliez arriver. Au Tibet.
On voulait aller à Lhasa, on voulait aller au Tibet, un peu dans la ligne de toute cette littérature classique sur le Tibet interdit. Je savais déjà, je comprenais très bien, sans être allé en Chine, que les voies du sud-est, celles qu'a empruntées David Neil, étaient devenues des espèces d'autoroutes avec des camions chinois soumises à la colonisation de l'ethnie Han, que le pouvoir encourage à aller s'installer au Tibet, que des camions y circulaient en permanence et que sans doute ça n'aurait pas le charme qu'on attendait. La voie du Nord me paraissait effectivement autrement plus prometteuse.
Et alors, est-ce que vous avez été déçu en arrivant, justement ? Alors, le voyage ne vous a pas déçu, puisque vous parlez d'instant, d'éternité, d'absolu ?
Oui, on a vécu des choses qui étaient conformes à l'image qu'on s'en faisait.
À votre désir
Alors, on est arrivé en Mongolie. Alors moi, je suis revenu hier de Mongolie. Et j'y étais pas retourné depuis. Et donc, ça fait 16 ans, 17 ans. Oulan-Bator, par exemple, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point cette ville s'est développée, puisque c'est le terme qu'on emploie. Nous, quand on est arrivé, c'était une ville qui sortait un petit peu de l'URSS. La Mongolie n'a jamais fait partie de l'URSS, mais elle était sous tutelle. Donc, ça ressemblait à une ville sibérienne d'après 1991. Et il y avait encore beaucoup de nomades, des gens habillés avec des costumes traditionnels jusqu'au centre-ville. Et on était parti avec des chevaux qu'on avait achetés 150 € pièce, je m'en souviens. Aujourd'hui, je ne sais pas combien c'est, mais c'est au moins 10 fois plus cher. On est parti de cette ville comme ça, on en est sorti très facilement. Et maintenant, c'est devenu un petit peu une petite Shanghai de Mongolie. J'exagère un petit peu, mais enfin, ça a vraiment, vraiment, vraiment changé de visage. Et c'est là que je me rends compte à quel point un voyage est lié à la au moment auquel on le fait. Et à cette époque-là, bon, c'est toujours le cas, hein, mais le nomadisme en Mongolie était toujours extrêmement vivace. C'était quelque chose qui était pour le coup authentique, c'est-à-dire que c'était le mode de vie de millions, ils ne sont pas tant que ça les Mongols, mais centaines de milliers de gens. Alors là, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Et puis au Tibet, Bon, il faut dire qu'on s'est engagé très loin dans les hauts plateaux. On a aussi été en contact avec des nomades tibétains tels que peut-être Alexandra David-Neil en a croisé à l'époque. Leur mode de vie n'a pas beaucoup changé. La question, c'est pour combien de temps encore pratiquer ce mode de vie, et est-ce finalement souhaitable hein, pour eux, je veux dire, pas pour le voyageur, parce qu'il y a une forme de perversité dans le voyageur. Quelque part, l'enfer des autochtones est le paradis du voyageur.
Ah oui, parce qu'il y a les gens, les nomades, alors eux changent peut-être. Ce qui change un peu moins, c'est aussi ce décor, ces éléments naturels, implacables, ces chaînes colossales, oui. Les montagnes. À vous lire, et c'est ce qu'on comprend, c'était ça finalement votre première rencontre avec le voyage.
Bien sûr, et ça changera pas, en tout cas difficilement. Le Tibet est un colosse de la nature. Ce qu'on appelle le toit du monde, ce sont des hauts plateaux coupés de chaînes qui sont très hauts, jusqu'à 6000, 7000 mètres. Mais comme les plateaux sont déjà à 4500 mètres, 4500, ce sont en fait des petites collines qui dépassent des plateaux. Et c'est un monde d'altitude, évidemment, qui est de toute beauté et qui est suffisamment hostile pour qu'effectivement ce qu'on appelle le développement ne vienne pas gâcher l'affaire. Alors là, il y a quelque chose d'éternel, effectivement, dans la nature.
Parce que vous, ça fait depuis tout petit que finalement vous arpentez les montagnes, que vous tutoyez
oui,
ces montagnes.
Oui, mes parents étaient de grands amoureux de la randonnée. Moi, j'ai voulu aller un peu plus haut, j'ai commencé à faire de l'alpinisme. Mais je ne suis pas un accro, moi, à tous les itinéraires techniques, les voies complexes. D'abord, je ne suis pas suffisamment fort. Et puis en plus, c'est vraiment pour les montagnes que j'y vais, pour la beauté des montagnes. J'aime être en montagne. J'aime même ne pas marcher, ne pas grimper, rien du tout. Le fait d'habiter la montagne est pour moi un grand bonheur, de poser ma tante ou dans les Alpes, avoir une petite chambre dans un chalet et d'être dans le décor des montagnes, pour moi c'est un grand bonheur.
Et alors vous y cheminez seul, accompagné quand même?
Oui, j'ai fait des choses seul, c'est pas très prudent. En revanche, c'est assez enivrant. Alors, être accompagné, il faut le faire avec un minimum de personnes, parce que d'abord, tout le monde n'a pas les mêmes capacités physiques. Et puis, je crois quand même qu'il faut... Il faut arrêter d'entendre la rumeur, même si ce sont des gens brillants qui tiennent des propos intelligents. Et le silence, c'est quelque chose d'important.
J'ai suivi beaucoup de chemins, j'ai ouvert de nombreux sentiers. J'ai navigué sur 100 mers et abordé 100 rivages. Partout j'ai vu des caravanes de tristesse, de superbes et mélancoliques ivrognes à l'ombre noire, et de grands pédants de la cantonade qui regardent, se taisent et pensent qu'ils savent parce qu'ils ne boivent pas le vin des tavernes, méchantes gens qui cheminent en empestant la terre. Partout j'ai vu aussi des gens qui dansent ou qui jouent quand ils peuvent et cultivent leurs petits lopins de terre. Jamais s'ils arrivent quelque part, ils ne demandent où ils arrivent. Là où il y a du vin, ils boivent du vin. Où il n'y a pas de vin, ils boivent de l'eau fraîche. Ce sont de bonnes gens qui vivent, travaillent, passent et rêvent, et qui un jour, comme les autres, repose sous la terre, repose sous la terre.
C'était Colette Magny sur RFI, une chanteuse contestataire entre blues français et rouge communiste, qu'on redécouvre pas mal d'ailleurs en ce moment en France à la faveur des printemps sociaux et autres anniversaires de mai 68.
Très, très belle chanson.
Vous connaissiez ?
Non, pas du tout.
Alors en parlant de saison, on est toujours avec vous, Cédric Gras, qui venait de publier aux éditions Stock, justement, Saison du voyage. Un curieux objet littéraire, tour à tour, mémoire, à 36 ans, c'est possible, d'un nomade du 21e siècle.
Moi, je n'ai pas écrit le mot, hein. C'est la c'est la presse
qui a parlé
qui a
mémoire.
Qualifié ça de mémoire.
Disons qu'il y a quand même un petit côté comme ça. Peut-être pas mémoire, alors collection, souvenir de voyage, donc d'un nomade du 21e siècle, mais aussi éloge et élégie, on peut dire, du voyage. Ouais. Alors, on a parlé du Tibet, on a parlé de l'Himalaya, ce toit du monde, qui est fruit. Parlons un peu de géologie, de la collision entre deux continents. Vous me voyez venir ?
L'Eurasie.
L'Eurasie, l'Inde et l'Eurasie. Et effectivement, l'Eurasie, vous en avez déjà parlé, c'est un terme qui vous est cher, que vous revendiquez presque.
Oui.
Qu'est-ce que c'est au juste, déjà, l'Eurasie ?
Ben alors, d'abord, il y a ce problème qu'on a à nommer les pays de l'ex-URSS. Parce que en 1992, 13, 15, 15, 16, etc., on pouvait appeler ça l'ex-URSS. L'URSS venait de s'écrouler, effectivement, c'était l'ex-URSS. Mais depuis, il y a des pays indépendants, le Kyrgyzstan, le Turkménistan, le Kazakhstan, etc., je ne vais pas tous vous les faire, qui, dans un cadre souverain national, se développent, reconstruisent des identités, parfois d'ailleurs un peu artificiellement, reprennent leur langue ancestrale. Donc, à un moment, on ne pourra plus appeler ça l'ex-URSS, parce que c'est un peu réducteur.
Déjà,
on ne peut plus déjà. Alors, comment les appeler ? On appelle ça l'Asie centrale, bon, pourquoi pas. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'Eurasie, parce que c'est un terme qui était réservé à la géologie, mais je crois que d'abord, c'est assez joli, et puis ça explique bien ce que c'est que cette énorme, immense partie du monde, qui est en fait un espèce de continent continental. C'est-à-dire que c'est le ventre.
C'est l'empire de la Terre, on pourrait dire.
C'est l'empire de la Terre. Ces pays-là n'ont aucun accès à la mer, aucun port. Ou alors, ils ont des mers intérieures, la mer d'Aral, des lacs immenses, etc. Et c'est un continent qui n'est pas entouré d'un océan, mais qui est entouré de tous ces pays qui, eux, sont riverains.
Et puis qui est quelque part ni Europe ni Asie, même s'il embrasse les deux noms.
Ni Europe ni Asie, effectivement. C'est assez frappant. C'est le symbole de la Russie, hein, d'ailleurs. Un aigle à deux têtes. Une tête qui regarde vers l'ouest, une vers l'est. Enfin, c'est l'explication qu'ils en donnent. Et dans les pays d'Asie centrale, on voit très clairement cette appartenance, cette double allégeance à l'Asie et à l'Europe, mais aussi cette identité centra-asiatique. Il ne faut pas les imaginer écartelés entre deux points cardinaux. C'est aussi des gens qui se définissent comme centra-asiatiques, comme eurasiatiques peut-être.
Mais alors c'est aussi un concept historique aujourd'hui qui est politique, qui est pas mal récupéré par la Russie d'aujourd'hui.
Ah bah, y a même des courants politiques, idéologiques en Russie, proches du cercle de Poutine. Oui, ils appellent ça le eurasisme en russe. Je ne sais pas si ce mot existe en français, mais effectivement, oui, ça fait partie. Alors moi, quand je parle de cela, je ne parle pas forcément de sa définition politique, mais ça se recoupe, donc c'est intéressant de toute façon. Oui.
Et alors dans votre dernier ouvrage, on vous suit justement pas mal en Eurasie, à l'est du monde. Et à vous lire, on a l'impression que finalement, c'est dans ce coin-là, celui que vous explorez depuis plus de 15 ans, qu'on voyage encore vraiment.
Oui, alors d'abord, c'est une région du monde, on parlait tout à l'heure de la géopolitique et des frontières qui sont ouvertes, qui sont fermées. Alors voilà une région du monde qui s'est ouverte. Les gens l'ignorent peut-être, mais on peut aller très facilement aujourd'hui au Kyrgyzstan, au Kazakhstan. Je crois même qu'il n'y a plus de besoin de visa. Moi, à l'époque, il y en avait besoin, mais j'y vais là cet été, donc je vais vérifier ça rapidement. Donc ce sont des régions très faciles, très très accessibles, et qui sont peu fréquentées, effectivement, et puis qui sont nouvelles un petit peu dans la géographie du voyage. Elles n'étaient pas arpentées avant les années 90. Donc il y a effectivement pour ma génération là une espèce d'Eldorado, et au même moment un peu plus au sud, l'Iran s'est fermé, a coupé la route des Indes, et tout le monde s'est pris tous ceux qui partent vers l'Est sont mis à passer vers l'Asie centrale. Donc, c'est vraiment l'Eurasie, c'est un petit peu la géographie du voyage de ma génération.
Et est-ce qu'aujourd'hui, au-delà d'être un Eldorado des voyageurs, c'est aussi un Eldorado pour les touristes ? Est-ce que le tourisme
n'est pas évident là-bas. Alors, je ne sais pas si on peut définir, distinguer le tourisme du voyage. Ce n'est pas toujours facile. Ce sont des mots qui sont parfois synonymes et parfois antonymes. Mais il n'y a pas en Asie centrale de choses, de hauts lieux touristiques. Comme il n'y a pas Rome, il n'y a pas Athènes, il n'y a pas la Tour Eiffel. Il n'y a rien de très précis à voir. Non, il n'y a pas l'Acropole. Enfin, en Ouzbékistan aussi, à Samarcande des Boukhara. Mais Kazakhstan, par exemple, ou Kyrgyzstan sont des pays de grande nature, de steppe, d'immensité. Donc, c'est plus fait pour le voyage, sans rien de précis à voir. Mais en revanche, c'est une atmosphère, ce sont des peuples à découvrir, des cultures, etc. Mais ça, c'est pas très tangible, effectivement. Ça demande aussi beaucoup de temps de voyager dans ces pays. On part pas là-bas pour un petit tour d'une semaine réglé comme du papier millimétré. Ça marche pas comme ça. C'est une terre de voyage, oui, je crois.
Donc le temps, c'est peut-être ce qui distingue le touriste du voyageur.
Oui, oui.
Nous sommes sûrement leurs premiers touristes depuis la guerre.
Tanner, pas des touristes, des voyageurs.
Oh, quelle différence ?
Un touriste, c'est une personne qui pense à rentrer à peine vient-elle d'arriver, Tanner.
Alors qu'un voyageur pourrait ne plus rentrer.
Cédric Gras, à l'heure de la géolocalisation, des city breaks, des GoPros, des blocs trotteurs, en vous lisant, on a l'impression de suivre finalement les pas d'un homme dont le corps est tourné vers le 21e siècle, ou né en tout cas au 21e siècle, peut-être pas, mais en tout cas, il voyage, il se meut au 21e siècle, mais votre tête, la tête, elle regarde vers le siècle précédent, le 20e.
Oui, ou dans un siècle. Moi, j'aurais aimé vivre l'époque de la conquête de l'espace. Et je crois que je serai plus de ce monde lorsque elle aura un petit peu abouti, mais ça va prendre plus de temps. Alors, oui, on me fait ce procès en permanence d'être désenchanté, d'être pastiche, etc.
Ah non, c'est pas un procès, c'est que vous-même, vous écrivez que vous êtes un voyageur en retard. Enfin, en tout cas, vous décrivez comme ça. Et moi, je me suis dit que ça doit être terrible à vivre comme sentiment. Quand non, on arrive quelque part non. Et qu'on se dit oh, mince, c'est trop tard.
Moi, je suis très apaisé vis-à-vis de ça, mais c'est pas moi qui regarde vers le passé, c'est le voyage lui-même qui est une chose un petit peu du passé. Parce que qu'est-ce que c'était que le voyage ? C'était quand même l'exploration de la Terre. Or, la Terre étant ronde, c'est-à-dire finie, il est évident qu'un jour, l'exploration se termine. Alors, cette exploration-là, de régions strictement inconnues, c'est pas quelque chose qui est du ressort de ma génération. Ça a déjà été fait, c'est comme ça. Alors, évidemment, après, on peut voir le voyage, et c'est ce que je m'efforce à faire, comme une actualisation de l'exploration, c'est-à-dire le monde change, les sociétés évoluent. Alors ça n'a rien à voir avec l'ouverture, la découverte de régions inconnues, mais c'est une mise à jour des connaissances qu'on a sur les sociétés. Et voilà, c'est comme ça.
Et se laisser surprendre aussi par de nouvelles réalités.
Bien sûr, voilà. Mais j'ai toujours refusé, moi, de regarder le voyage, ce qu'on disait au début de l'émission, avec des lunettes roses, en trouvant que tout est formidable, tout est extraordinaire. Dans
l'angélisme, quelque part.
Bien sûr, j'en parle un petit peu, notamment au niveau des rencontres qu'on fait avec les autochtones, qui sont parfois d'une naïveté confondante quand on écoute les récits. Alors, ça m'a toujours un peu irrité. Donc, c'est pas parce qu'on voyage que c'est bien. Ce terme, c'est bien de voyager. Les gens vous disent, voyager, c'est bien. Non, il peut y avoir des choses aussi moins bien dans le voyage. Alors, c'est comme tout dans la vie, il y a différents aspects, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit d'en discuter, mais c'est vrai que très rapidement, on vous fait le procès de la personne qui est tournée vers le passé.
Parce qu'une fois le printemps et l'été du voyage passé, c'est l'automne, le temps de la récolte peut-être, et je crois savoir que c'est justement, Cédric Gras, votre saison préférée.
Si loin, si proche, sur RFI.
Quand j'étais au Caucase avec une douzaine d'étudiants, on a traversé le Caucase à pied, après du col du Dongusorun, on est arrivé en Svaneti. Et là, j'ai vu des populations fascinantes. Dans les vallées des grandes montagnes, quand il y a des migrations et des guerres, ces vallées servent de refuge à toutes sortes de tribus différentes. Alors, nous sommes arrivés dans cette vallée où il y avait des Svanes. C'était la Svaneti libre qui n'avait pas encore été pas du tout bouleversée par les soviets. Et dans chaque vallée, il y avait des tribus différentes. Et il y avait déjà aussi des musulmans et des gens très sympathiques. Et j'ai eu le sentiment qu'il y avait des êtres humains, je le savais bien avec le Pacifique naturellement, avec les Arabes en Arabie ou avec les Tibétains au Tibet, qui avaient des tribus pas encore touchées par notre civilisation de dingue, puisque aujourd'hui tout le monde est à peu près d'accord qu'on est en train de faire fausse route. Mais je me suis dit, tiens, parmi ces tribus, c'est assez sympathique d'aller vivre avec eux peut-être, ou d'aller se rapprocher d'une autre manière de vivre que l'européenne.
Il y avait une part de romantisme à vouloir partir
si vous
ça.
Voulez, et vous pouvez même appeler ça une fuite, échapper à l'Europe, il n'y a pas de doute, puisque l'Europe ne me convenait pas.
« Cédric Gras, on vient d'entendre dans cet archive de la radio suisse romande de 1979, Ella Maillard, autre grande voyageuse du XXe siècle, qui inlassablement, à pied, à cheval, en train, en camion ou en fort de thé avec Anne-Marie Schwarzenbach, a sillonné elle aussi l'Est du monde, de la Russie à l'Inde, en passant par le Kyrgyzstan, l'Afghanistan ou la Chine. Fuir l'Europe, dit-elle, est-ce que c'est ça aussi, vous, qui vous a guidé?
Non, pas du tout. Aller loin, oui, ça c'est sûr. Je me disais que c'était le moment quand on était jeune. Mais il n'y avait pas cette volonté de quitter l'Europe. D'ailleurs, en Russie, j'ai beaucoup réfléchi à cette question d'Europe. Parce que la Russie, est-elle dedans? N'est-elle pas dedans? On est questionné quand on est en Russie par rapport à son identité européenne. Donc il n'y avait pas une fuite. D'ailleurs, je vis maintenant, je suis basé à Paris, même si je m'en échappe souvent. Et ça me convient tout à fait. J'aime beaucoup l'Europe. J'aime beaucoup l'Europe. D'ailleurs, vous parliez de l'automne tout à l'heure. J'aime beaucoup les latitudes tempérées. J'ai de plus en plus de mal à quitter ces latitudes qui sont mes latitudes natales, en fait. Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir, au-delà d'un pays, d'une langue, d'une culture, avoir aussi une nature qui soit celle dans laquelle on est né et qui finalement devient un peu notre terre natale au sens Pachamama, comme diraient les Indiens. Là, ce qu'on a écouté, c'est fantastique. Je suis en train de travailler là-dessus, moi, pour un prochain ouvrage qui sortira bientôt. Pas tout de suite du tout, d'ailleurs, j'ai beaucoup de travail. Elle traverse le Caucase, elle a relaté ça dans un livre, Ella Maillard, ça s'appelle « Parmi la jeunesse russe ». Et c'est vrai qu'elle a traversé le Caucase dans les années 30, à une époque bénite, avant l'arrivée du progrès, puisque dans ces régions-là, le progrès, c'était les soviets. Ils ont amené l'électricité, ils ont amené l'alphabétisation, ils avaient des petits cinémas ambulants dans les montagnes pour faire voir un petit peu aux Svans, aux Tchétchènes, aux Abkhazes, etc., ce que c'était que cet homme nouveau que prônait le marxisme-léninisme. Et elle a fait un voyage magnifique au Caucase, effectivement.
Et donc c'est aussi une figure embarrassante, inspirante, encore un mythe, une grande dame voyageuse. On en a besoin quand même de ces grands voyageurs.
Bien sûr qu'on en a besoin.
D'antan.
D'antan, alors ils n'ont pas non plus 5 siècles, mais...
D'avant, dirons-nous.
Mais il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire qu'il y a une accélération, il y a eu une accélération terrible de l'histoire, une accélération terrible du développement, des paysages qui pendant plusieurs millénaires étaient peu ou prou les mêmes, des modes de vie qui semblaient éternels et ancestraux, en 20, 30 ans, ont été totalement bouleversés. Le temps ne coule pas de manière régulière, il y a vraiment eu une accélération du temps ces dernières décennies, et nous, on est en plein dedans. Voilà, ma génération, nous sommes en plein dedans. Et c'est ça qu'il faut explorer, bien sûr. C'est ça qu'il faut explorer. Moi, ce que je raconte dans le livre, c'est que le fait d'apprendre une langue, ça m'a vraiment sauvé. Parce que toutes ces déceptions vis-à-vis, enfin des déceptions relatives, hein, mais ces petits bémols que je pointe au sujet du voyage tel que l'ont pratiqué Nicolas Bouvier ou d'ailleurs Ella Maillard, c'est-à-dire des traversées, des itinéraires, qui parfois pêche un peu par une forme de superficialité, mais à l'époque c'était fantastique parce qu'il découvrait un monde qui était très différent effectivement du monde européen. Aujourd'hui, je crois qu'il faut aller chercher plus profondément. Il faut pas voyager avec ses yeux, parce qu'on est vite déçu avec ses yeux. Le monde est en train de s'uniformiser, de se standardiser. En revanche, culturellement, il y a toujours des approches de la vie, de l'existence, du destin, du monde qui sont uniques, originales. Alors il faut apprendre des langues, il faut s'installer, il faut faire son trou, il faut tisser des liens. Et ça demande énormément de temps. Et voilà pourquoi moi je crois que finalement aujourd'hui, c'est une expérience presque plus enrichissante d'aller passer 2-3 ans, qu'on fasse des études, qu'on travaille, qu'on fasse de l'humanitaire, qu'importe, dans un endroit, même sans en bouger, on verra moins de choses, mais sans doute qu'on en apprendra plus.
Et à travers la langue, on lit, la poésie notamment. 4e saison du voyage, l'hiver, la neige, le refuge et le renouveau qu'on prépare avec les mots incandescents de la poète russe Marina Tsvetaeva, ici chantée par Elena Frolova.
Поступь легкая моя, чистой совести примета, поступь легкая моя, песня звонкая моя. Бог одну меня поставил посреди большого света. Ты не женщина, а птица, посему летай и пой, посему летай и пой. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-
On parlait de langue. Cédric Gras, vous qui êtes russophone, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on vient d'entendre?
Elle a dit « T'es une hygiène, c'est ma petite. C'est-à-dire, tu n'es pas une femme, tu es un oiseau. Voilà. » C'était ça le centre de ce poème chanté. C'est la magie de la langue russe que d'avoir conservé un amour de la poésie. Chez nous, celui qui se risque à faire de la poésie, parce qu'aujourd'hui c'est un risque de faire de la poésie, de se faire traiter de ringard, de dire des mots qui sont l'expression de sentiments profonds mais qui vont sembler pathétiques à ceux, à nos contemporains qui n'aiment plus la poésie, qui ne savent plus l'écouter. Ben les Russes, ils continuent à faire de la poésie. C'est un pays magique, c'est une langue magique pour cela. Aujourd'hui encore, vous avez des gens qui osent. Vous avez des chanteurs qui reprennent des textes aussi classiques que ceux d'Akhmatova ou de Tsvetaeva. Ça, c'est un des textes de Tsvetaeva. Alors, j'aime beaucoup la langue russe pour ça.
Et Tsvetaeva, est-ce qu'elle faisait partie de vos humanités, comme on dit ?
Je l'ai découvert tard. Non. J'ai découvert tard, comme j'ai découvert tard la Russie. Moi, je n'ai pas fait de russe au lycée. J'en ai pas fait non plus à l'université. Je l'ai appris en partant là-bas, en étant en Russie. Donc, la littérature russe, je l'ai lue sur le tard, à partir de 23, 24 ans. Et je continue à découvrir des auteurs. Depuis là, 2 ans, je suis complètement fou de la littérature de Ivan Bounine, qui est un auteur assez méconnu chez nous, même s'il est facile à trouver en librairie, mais il n'est pas très lu. Il y a quelque chose, il y a une histoire entre la littérature et la langue russe. Et ça, c'est un voyage. On peut rester chez soi et voyager par ces textes qui sont absolument phénoménaux.
D'autant plus qu'il y a, et effectivement, dans la poésie de Marina Tsvetaeva, qui est née donc en 1892 et qui est décédée en 1941, il y a cette, on le dit souvent à son propos, une urgence, une incandescence. Elle est beaucoup autour du feu, ce feu de la création, de l'écriture.
Elle est, Tsvetaeva et Akhmatova, c'est deux poétesses qui n'ont pas d'équivalent jusqu'aujourd'hui, donc... Elles vont continuer à être lues. Elles sont très très populaires en Russie. Chez nous, elles sont relativement méconnues. Il faut dire que la poésie n'est pas évidente à traduire. Voilà l'intérêt d'apprendre aussi une langue étrangère. Aller chercher des textes dans leur écriture originale, pour la poésie en tout cas, ça change tout. Pour la prose, un peu moins, mais malgré tout.
Et c'est aussi une façon de comprendre l'âme d'un peuple.
Bien sûr, bien sûr. Mais on ne se rend pas compte à quel point... connaître la langue du pays dans lequel on voyage décuple le pouvoir de son voyage.
Donc c'est ça finalement la façon de réenchanter le monde, refaire le monde.
C'est ce que j'écris dans le livre. Moi je suis l'apôtre de l'apprentissage des langues aujourd'hui. Alors j'ai rien contre l'anglais, mais effectivement il ne faut pas s'en satisfaire, parce que se dire que l'anglais c'est une langue de communication et qu'on pourra partout échanger, d'abord ce n'est pas toujours très vrai, et ensuite c'est une communication si imparfaite, et puis qui se résume à des choses très pratiques, où manger, où boire, qu'est-ce que tu fais, où tu vas, etc. Alors que je crois que voyager, si on essaye de par exemple de trouver une différence entre le voyage et le tourisme, alors voyager ce serait peut-être s'engager dans une altérité, notamment culturelle, essayer de comprendre, essayer d'apprendre, alors que le tourisme se contente souvent de regarder avec les yeux et d'en rester des choses assez informatives.
Alors pour finir, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a même un cratère sur la planète Vénus qui porte le nom de Tsvetaeva.
Mais la toponymie du cosmos est une chose extraordinaire.
Oui.
Il faut comprendre le russe. Mais les Russes, les Soviétiques, ont été notamment les premiers à photographier la face cachée de la Lune. Et tout l'envers de la Lune est nommé avec des noms russes. Ce sont des poètes, ce sont des musiciens, ce sont des explorateurs polaires. C'est magique. Moi, j'ai chez moi...
Oui, ça vous plaît, parce que vous regardez effectivement, et vous l'avez dit, la conquête spatiale comme le prochain grand voyage.
Oui,
vu qu'on a fait le tour de la Terre.
Là, je reviens de Russie. Je suis revenu avec une grande affiche soviétique de Gagarin. D'abord parce que je la trouve très belle, et puis parce que Gagarine, il a fait un petit tour autour de la Terre qui n'impressionne plus personne aujourd'hui, mais c'était le début de quelque chose qui prend le relais de l'exploration terrestre. Moi, ça m'a frappé, ça, quand j'ai travaillé sur l'Antarctique, de voir à quel point dans les années 50, il y a eu un passage de relais. Les années 50, début des années 60, ça a été à la fois l'achèvement de l'exploration de la Terre avec l'étude systématique de l'Antarctique et la conquête des tous les 8000 Himalayens, et au même moment, on envoyait les premières fusées, que ce soit depuis l'URSS ou depuis les États-Unis, vers l'espace. Et là, il y a eu un passage de relais. Et alors, ça m'intrigue énormément, ça va prendre beaucoup de temps, mais c'est pour ça qu'on fait des enfants, c'est pour que l'aventure humaine continue, même si
que
nous,
le voyage aussi continue.
Et le voyage, parce que l'humanité, c'est un voyage.
Et justement, c'est le cosmos, c'est le dernier chapitre de votre ouvrage.
Oui.
On vous quitte finalement regardant les étoiles.
Mais moi, ça me fait rêver. Alors si, quand j'avais 15 ans, 16 ans, je lisais Yamayar et David Neal à propos du Tibet, non pas que j'ai pas envie de retourner au Tibet, mais bah, aujourd'hui, c'est le cosmos qui me fait rêver. J'espère qu'on n'aura pas une approche du cosmos trop commerciale, faite d'exploitation de ressources sur la Lune, puis ça m'intéresse très moyennement. Mais en revanche, même si c'est complètement vain... la conquête spatiale, puisque à l'échelle de l'univers, tout ce qu'on pourra faire, ça sera des petits pas. Mais c'est la magie de l'homme que malgré tout, même quand c'est vain, même si c'est impossible, eh bien quand même de prendre le problème à corps. Et alors, il y a déjà un petit peu de littérature sur l'espace. Il y a eu un récit de voyage que j'ai lu là, qui est assez amusant. J'ai plus le nom en tête, malheureusement. Quelqu'un qui a imaginé que dans 30, 40 ans, de même qu'on a des écrivains voyageurs qui parlent de notre planète, de notre monde, il a inventé un petit récit de voyage sur Mars. Il y a eu un recueil de poésie sur les sondes là, qu'on a envoyées l'année dernière. Ça m'amuse. Et en même temps, c'est très beau. Le cosmos se prête beaucoup à la poésie. Enfin, les Russes ont fait beaucoup de poésie d'ailleurs sur le sujet.
Donc finalement, les saisons, c'est un éternel recommencement, puisque là, on vous imagine un peu, c'est un peu un rêve de gosse, tout ça.
Oui, mais on est tous un peu nés dans... Les voyageurs sont assez enfantins. Ça, c'est vrai.
Cédric Gras, merci.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre ouvrage « Saison du voyage » paru aux éditions Stock. Auditeurs, si loin, si proche, allez ce week-end, si vous le pouvez, dans l'ouest de la France, à Saint-Malo, pour le festival Étonnant Voyageurs. Face à l'océan Atlantique, si le vent breton a bien balayé le ciel, vous pourrez peut-être admirer tout plein d'étoiles et bien sûr, rencontrer d'étonnants voyageurs comme Cédric. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary, on vous salue et on vous dit à la semaine prochaine pour d'autres voyages. Merci à Pierre Vallée et Lucie Bouteloup pour leur lecture précieuse. Bonne semaine à l'écoute de RFI.
Anna, you're lost in a shadow there. Cinder and smoke hanging in the air. Oh, when I know you'll be bolder than me. I was high, I was unaware. God above saw ever in the mind. Blue and white irises in a line. Under your nameless shame, I left you in frame, and you rose to be ossified as a rose.
Retrouvez Si loin, si proche, quand vous le souhaitez, en vous abonnant à notre podcast sur la page de l'émission sur RFI.